Bonsoir à toutes et à tous. Des escroqueries en hausse de 11%, coups et blessures plus 8%, homicides plus 9%. Xavier Bertrand dénonce le fiasco sécuritaire d'Emmanuel Macron avec un ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui peine à imprimer depuis son arrivée, place Beauvau. La France est-elle effectivement en proie à un regain de violence et d'insécurité? Que disent les chiffres? Comment les interpréter? La sécurité est-elle le talon d'Achille d'Emmanuel Macron? Est-ce là une demande forte de la population et un angle d'attaque pour l'opposition? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Délinquance, violence, ces chiffres qui inquiètent la Macronie ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous enseignez également à New York et à Shanghai. Auteur des Protecteurs, la gendarmerie nationale racontée de l'intérieur. C'est aux éditions Odile Jacob. Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique aux Échos. Ivan Trippenbach, journaliste à l'Opinion, chargé des questions régaliennes. Et Driss Aït Youssef, docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité, président de l'Institut Léonard de Vinci. Alors Alain Bauer, est-ce que oui, les chiffres ne sont pas bons? Et est-ce qu'on peut mesurer de façon objective l'insécurité?
Alors, il y a les mensonges, les gros mensonges et les statistiques.
Très connus.
Oui, mais toujours d'actualité. En réalité, l'outil statistique en France a un avantage. Il existe depuis 1972 de manière à peu près stable. Il a trois légers défauts. Il est partiel, il est parcellaire et il est partial. Il est partiel parce qu'il ne prend compte que les crimes et les délits, pas les contraventions. Il y a entre 3 et 4 millions de crimes et délits, il y a 25 millions de contraventions.
Qu'est-ce que vous entendez par contravention? C'est les PV qu'on se prend quand on se gare mal?
Hélas, non, car depuis 1972, on décriminalise, on dépénalise, on contraventionnalise, y compris des violences.
D'accord.
Et il y en a environ 1 million.
C'est-à-dire que je me fais voler mon téléphone portable à un café, c'est une contravention, c'est quoi?
Ça dépend. Ça dépend comment on va qualifier l'infraction. C'est la deuxième partie. C'est-à-dire qu'on a un libre choix de la manière dont on interprète ce que vous allez dire. Par exemple, un feu de poubelle à l'extérieur, c'est un petit délit de dégradation de biens. Un feu de poubelle à l'intérieur, ça peut être une tentative d'homicide. Ça peut être un crime, puisque l'incendie volontaire est un crime. C'est toujours un feu de poubelle. J'interprète le feu de poubelle. J'ai pris le plus simple. Tout est de nature à... un coup et blessure, enfin une attaque à main armée, ça dépend de quelle est l'arme. Vous noterez qu'attaque à main armée ne définit pas l'arme. En fait, ce qu'on détermine par attaque à main armée ou par braquage ou par simplement vol avec violence, la gradation, c'est moi qui la décide. La
donc,
différence,
c'est
que les gendarmes, 25% de la population de crimes criminels, utilisent un logiciel qui est le code pénal. 16 000 incriminations possibles et imaginables avec un logiciel qui est très précis et qui est très peu remis en cause par les magistrats. Parce que tout est fait dans le cadre d'un processus qu'ils comprennent. Ils parlent la même langue. Les policiers, 75% de l'activité criminelle, ont un logiciel qui fonctionne avec un outil qui s'appelle le 4001, qui est le mode opératoire qui n'a rien à voir avec le code pénal.
Donc c'est très facile de manipuler les chiffres, c'est ce que vous voulez dire. Voilà.
Hélas. Et alors, puis troisièmement, c'est partiel parce que les chiffres sont trop mauvais, on se fait engueuler. Les chiffres sont trop bons, on perd des effectifs. On corrige tendanciellement la statistique au niveau local. Donc toute la chaîne décide d'améliorer tendanciellement l'outil statistique en fonction de critères qui n'ont rien à voir
alors,
avec la réalité.
Quand on lit plus 8% coups et blessures volontaires, ça veut dire quelque chose par exemple?
Non. 8% non. De quoi par rapport à quoi?
Voilà. En 2019 par rapport à 2018.
Oui, mais ça dépend le niveau de manipulation du chiffre 2018 par rapport à 2007. L'avantage,
bon alors, donc c'est qu'on n'a pas de thermomètre, on ne peut pas la mesurer.
Si,
donc.
Une enquête de victimation. On va demander aux gens ce qu'ils ont subi et pas seulement à la police ou à la gendarmerie ce qu'elle a enregistré.
Et alors là?
Eh bien là, on a de très mauvais chiffres depuis longtemps. Mais on a un indicateur beaucoup plus précis. Beaucoup plus précis. Depuis 1539 en France, et l'édit de Villers-Cotterêts, on compte très bien les cadavres. L'homicidité, c'est l'élément le plus stable et il est fiable dans l'ensemble des pays qui enregistrent les homicides. Tout le reste subit des évolutions, violences sexuelles. Pendant longtemps, par exemple, le viol n'était pas un crime, alors que le suicide en était un. C'est-à-dire vous vous ratiez, on vous punissait pour vous être raté parce que seule l'autorité supérieure avait le droit de vie ou de mort sur ces sujets. C'était comme ça. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions. Dans l'homicide, tout est à peu près carré. Il se trouve que pour la première fois, 2019 est la pire année de l'histoire statistique de ce pays en matière de homicide, tentative d'homicide et coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort.
Donc voilà un indicateur qui montre que le bilan n'est pas bon en tous les cas.
Bah, en tout cas, le bilan, je ne sais pas, mais l'outil montre une homicidité, donc une violence sociétale plus importante, et ce n'est pas dû au règlement de compte entre malfaiteurs, ce que nous avons cru pendant longtemps, c'est dû à une capacité de la société à régler ses comptes en ne faisant plus confiance au système policier, au système pénal, au système judiciaire ou au système politique, et donc à une augmentation massive de la violence.
On se fait justice soi-même, c'est ça.
On se fait justice soi-même.
Cécile Cornudet, ces chiffres, en tous les cas, ils sont là, ils sont exploités. Est-ce que c'est un problème pour Emmanuel Macron ? Xavier Bertrand a parlé de fiasco insécuritaire.
Politiquement, ça va le devenir. En fait, ça n'était pas forcément jusqu'à présent. Paradoxalement, l'année dernière, avec toutes les violences dans la rue qu'on a connues autour des Gilets jaunes, il a réussi à incarner d'une certaine façon le parti de l'ordre pour une partie des électeurs aux élections européennes. Il a réussi à attirer vers lui, sur les mots très durs qu'il avait eus à ce moment-là, une partie de l'électorat de droite. Mais là, c'est en train de changer. L'électorat de droite est en train, nous, on a fait un sondage cette semaine, Elab Les Échos, où il perd 7 points de popularité dans l'électorat de droite. Les chiffres sont mauvais. Le sentiment des Français aussi, quand on leur demande, par exemple, quel est le plus important pour vous dans les élections municipales, là, tout le monde pense l'environnement. Eh bien non, loin devant, on a les problèmes de sécurité. C'est que c'est redevenu un sujet vraiment de préoccupation majeure. Et puis, on sent effectivement, vous parliez de Xavier Bertrand, une offensive de la droite sur ces sujets. Après les municipales, on va sans doute rentrer dans un temps politique un peu nouveau où les vieux partis se seront un peu refaits aux municipales. Et là, on voit qu'il anticipe ce moment-là et qu'il va très fort sur ce sujet-là en disant qu'effectivement Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur. Et ce n'est pas l'histoire du t-shirt LBD. La semaine dernière, il s'est fait prendre en photo, vous savez, à côté d'un t-shirt.
Voilà, on va voir le t-shirt, oui, puisque la semaine dernière, il s'est fait prendre à côté de ce t-shirt qui dénonce ce qu'on appelle les violences policières, les tirs de LBD.
Voilà.
Et donc la police l'a très mal vécu. Hein.
Elle l'a très très mal vécu. Et c'est vrai qu'à ce moment où la délinquance flambe, Les policiers se sentent pas soutenus par une photo comme ça. Ils se sentent très déstabilisés. On sent que Emmanuel Macron essaye de trouver un nouveau discours pour réconcilier les Français avec leur police. Parce que chez les jeunes, l'image de la police s'est beaucoup dégradée. Mais en faisant des choses comme ça, il fragilise aussi sa police à un moment où la délinquance explose. Il a besoin d'elle. Donc il est dans un chemin un peu compliqué de ce point de vue-là.
Yvan Trippenbach, est-ce que si Emmanuel Macron n'a pas un problème Castaner, qui incarne peu cette stature régalienne de premier flic de France?
Oui, alors il y a un sujet Castaner, mais alors sur le sujet de la délinquance de droit commun et sur les chiffres qu'on a évoqués, j'aurais pour une fois quelques réserves quant à sa responsabilité directe de ministre de l'Intérieur, même s'il est évidemment responsable si ces chiffres-là rentrent dans son périmètre. D'une part, sur le bilan lui-même, hormis les homicides, on a effectivement une hausse des violences par coups et blessures, y compris des violences intrafamiliales. Donc on a une hausse des violences à l'intérieur du cercle familial qui tire vers le haut ce chiffre des violences et coups par
coups et blessures volontaires.
Merci. Et donc on a tout un sujet de libération de la parole et de d'enregistrement des plaintes auprès des services de police et de gendarmerie qui comptent dans ce sujet-là. Idem pour les violences sexuelles.
Il n'y en aurait pas forcément plus, c'est parce qu'on va plus porter plainte et on va plus à la police pour déclarer.
Oui, il y a ce sujet qui se pose dans ces statistiques-là et pour les violences sexuelles, notamment les viols, c'est évidemment frappant. On sait qu'une personne sur 10 à peu près va déposer plainte lorsqu'elle est victime de viol. Donc ça, ce sont des chiffres qui émanent de l'Observatoire indépendant national qu'on évoquait tout à l'heure et qui sera supprimé par Christophe Castaner. Ces chiffres du nombre de violences réelles dans la société, il nous est connu et cela nous permet d'être... On peut de fait les comparer avec les statistiques du ministère de l'Intérieur et se rendre compte que si des statistiques montent, eh bien c'est aussi parce qu'on a une libération de la parole et un meilleur accueil dans les services de l'État. Donc Christophe Castaner n'est pas entièrement responsable de toutes les catégories qui sont répertoriées par son service statistique en matière de délinquance et de violence. Et puis par ailleurs, il y a aussi des causes qui sont structurelles. On peut parler de la baisse des effectifs de police et de gendarmes depuis une dizaine d'années.
On va revenir sur ce qui nourrit la sécurité. C'était juste d'un point de vue politique. Donc selon vous, il n'y a pas de problème Castaner.
Alors il y a un problème Castaner, mais la question c'est est-ce que c'est juste de lui attribuer tout ce problème-là cette fois-ci. Il se trouve qu'on est à 40 jours des municipales et il est bien normal que la droite s'en empare pour l'ériger en
essayer de charger un petit peu le gouvernement.
Driss Saïd Youssef, on le disait à l'instant, est-ce que on l'oublie, mais la sécurité, c'est la demande élémentaire des citoyens auprès des politiques. C'est avant toute autre considération, avant, je ne sais pas, les questions d'emploi, de sécurité ou d'environnement.
Oui, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il n'y a pas de liberté sans sécurité, évidemment. Mais j'ai envie de dire que la sécurité revient au devant de la scène en fonction des événements et des circonstances. En fonction des événements, lorsqu'on a par exemple des attentats à caractère islamiste, on voit bien que les Français effectivement sont apeurés, à juste raison, ou alors quand, lorsqu'il y a des violences urbaines, lorsque pendant des manifestations, on a des rues de Paris complètement saccagées, avec des véhicules renversés sur la voie publique et brûlés. Et puis aussi, en fonction, j'ai envie de dire, des circonstances, lorsque nos concitoyens ont un peu l'impression que le ministre de l'Intérieur, que le gouvernement n'apporte pas les bonnes réponses en matière de sécurité. On sent qu'il y a quand même une certaine forme de fragilité sur ces sujets-là. Et là, très classiquement, si on reprend le dernier sondage TF1, LCI, RTL sur la préoccupation des Français en matière de sécurité, qui est vraiment la première préoccupation, on voit bien que ça matérialise d'une certaine manière sur les élections municipales aussi une problématique que nos concitoyens rencontrent, et celle effectivement dont on parle de l'ensauvagement d'une partie de la société. On le voit au travers de ces sondages avec une violence qui explose et dont nos concitoyens sont confrontés au quotidien, c'est-à-dire les rodéos sauvages, c'est-à-dire les incivilités sur la voie publique. Et ça, d'une certaine manière, ça met en difficulté, c'est vrai, le gouvernement, mais surtout, c'est une grande forme de préoccupation, et on voit bien qu'à chaque fois que le gouvernement ne répond pas correctement, et c'est le même sujet sur le chômage, quelquefois on voit que la préoccupation des Français, c'est évidemment l'emploi. Quand on n'a pas confiance en gouvernement de proposer une politique économique très forte, et là, pour le coup, on est sur les questions de sécurité. Donc c'est vraiment préoccupant, parce que on peut, à un moment donné, se dire, finalement, on va se faire justice soi-même, et donc c'est le retour, finalement, ou le retour de l'état de droit à l'état de nature. On se fait justice soi-même.
D'où la hausse des homicides dont parlait tout à l'heure Alain Moi. Alors, que fait la police? C'est en résumé la question que posent les partis d'opposition après la publication des chiffres de la délinquance de 2019 qui marquent une forte hausse des violences. Premier accusé, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui se défend de vouloir faire une politique du chiffre. Vous voyez ce sujet de Paul-Rémy Barjavel et Christophe Roquet.
Marche blanche. En mémoire de Kevin, 15 ans, tué à coups de couteau en Seine-Saint-Denis. La peine et la colère de plus de 1000 habitants de deux communes voisines. Kevin, victime d'une guerre ancienne entre quartiers. C'était en octobre dernier.
Bien sûr qu'on est en colère contre ces assassins. Bien sûr qu'on peut en vouloir aux élus. Mais il faut aussi qu'on prenne notre part de responsabilité. Nous, parents, grands frères.
Là, il y a des morts. Il faut que chacun en prenne la mesure. Et donc, il faut qu'il y ait un retour du service public dans notre pays.
Le manque de service public, l'absence de policiers pointés du doigt par les habitants qui se sentent en insécurité.
Il n'y a qu'à avoir plus de flics. Parce qu'il n'y a pas assez de poulets, il n'y a pas assez d'un gendarme, il n'y a rien.
Ce meurtre est l'un des 970 commis en 2019. Une année noire pour les homicides en France, mais pas seulement. Car c'est toute la délinquance qui a fait un bond l'année dernière. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont tombés et ils ne sont pas bons. Crimes, délits, tous les voyants sont au rouge. Les homicides ont augmenté de 9%, les coups et blessures volontaires de 8% et les violences sexuelles de 12%. Pour le ministère de l'Intérieur, ce dernier chiffre s'explique notamment par la meilleure prise en charge des plaintes.
En matière de violences sexuelles, c'est qu'on a eu un phénomène de libération de la parole avec le phénomène MeToo, où notamment les femmes, de plus en plus, osent franchir les portes des commissariats de police, des brigades de gendarmerie, pour parler des faits qu'elles ont subis. Donc il y a une hausse dans la délinquance constatée, c'est-à-dire les plaintes et les mains courantes déposées, mais qui est aussi due à cette facilitation de l'accès dans les services de police et de gendarmerie.
Malgré tout, ces chiffres sont comme des cailloux dans la chaussure d'Emmanuel Macron pour la deuxième partie de son quinquennat. La sécurité serait-elle son talon d'Achille ? C'est sur ce terrain qu'a choisi d'attaquer cette semaine Xavier Bertrand.
On a besoin de tenues quotidiennes pour les forces de sécurité intérieure. On a besoin de véhicules, on a besoin de drones, notamment des moyens les plus sophistiqués, technologiques également, pour faire reculer la délinquance et l'insécurité. C'est ça que je demande. Je dis au gouvernement, je dis au président de la République, j'ai bien compris que sur les questions régaliennes, vous n'étiez pas à l'aise. J'ai bien compris que les questions de sécurité, de justice, même de respect de la laïcité, ce n'est pas les sujets sur lesquels vous êtes à l'aise. Mais je vous le dis, Monsieur le Président, vous êtes le garant des institutions et dans notre pays, nous avons besoin d'ordre et d'autorité.
Et puis, il y a ces images, semaines après semaines, depuis le début de la crise des Gilets jaunes. Des manifestations violentes, des scènes d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, parfois même entre pompiers et policiers. Un climat social tendu et une mauvaise image de la France exploitée par l'opposition contre le président de la République.
Il contribue lui-même à tendre inutilement les relations politiques et sociales dans le pays. Le seul responsable de toute la violence, c'est lui.
Le président doit rassembler les Français. Jamais je n'ai vu ce pays aussi divisé, aussi fracturé. Et moi, j'ai envie plutôt d'être un réducteur de fractures qu'un accélérateur de fractures.
Pour cette année, le gouvernement a augmenté de plus de 500 millions d'euros le budget dédié à la sécurité et annoncé la création de 2000 emplois dans la police et la gendarmerie.
Alors, question téléspectateur. Xavier Bertrand est-il en train de se positionner pour la présidentielle de 2022 ? Yvan Trippenbach, est-ce que c'est un thème de reconquête pour la droite, la sécurité ?
Oui, absolument, c'est un thème de reconquête. Pour Xavier Bertrand, je ne sais pas, mais en tout cas, il parle à son électorat dans un contexte particulier qui est celui des municipales et d'une rebipolarisation de la vie politique d'une certaine manière. On a tout un tissu d'élus locaux de droite sortants, de maires sortants, qui ont un bilan à faire valoir, qui sont appréciés plus ou moins de leurs administrés et qui peuvent compter sur leur réélection. On a toute une partie de l'électorat de droite centriste qui est parti chez Emmanuel Macron et qui, à la faveur de cet ancrage local de leur maire LR, peuvent revenir vers la droite Les Républicains. Et puis, rebipolarisation aussi à gauche, avec alors cette fois la montée des Verts qui tend à remplacer peu à peu le PS, mais avec la gauche en tout cas qui va peut-être résister, se remanifester comme aux européennes dans les municipales. Donc la sécurité, oui, est un thème qui parle à la droite, c'est certain, même si ces dernières années, on va peut-être en parler, ce n'est plus uniquement un thème de droite, c'est un thème qui est utilisé par tous les partis politiques aujourd'hui.
À tous les partis, justement, Cécile Cornudet, on a longtemps dit que la gauche était mal à l'aise avec ce thème de la sécurité. Est-ce que c'est toujours le cas ?
En tout cas, dans les élections municipales, vous voyez que les listes de gauche ont aussi un gros chapitre sécurité à chaque fois. Regardez Anne Hidalgo à Paris. Il y a un an, elle était contre la police municipale. Maintenant, elle est favorable. Et même les Verts, qui n'ont vraiment pas cette culture-là, mais comme Yannick Jadot rêve lui aussi de présidentiel, il sait qu'il faut qu'il soit sur ces sujets. Et ben, vous avez quand même plusieurs candidats verts aux municipales qui sont sur ces sujets. Je ne sais plus comment il s'appelle, le candidat vert à Bordeaux, par exemple, il est pour une police municipale. À Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, la candidate a tout un dispositif de collaboration avec la police, etc., pour avoir une présence plus accrue. Jusqu'à présent, on avait un maire écolo qui était celui de Grenoble et il a été très critiqué sur sa gestion de la sécurité. Il était contre la vidéosurveillance, tout ça. Ben, aujourd'hui, je peux vous dire que les candidats écolos ne sont pas contre la vidéosurveillance.
Mais Yvan Trippenbach, est-ce que ce n'est pas le thème aussi, surtout du Rassemblement national ? Est-ce que ce n'est pas ce parti qui pourrait tirer les marrons du feu d'une flambée de violence sécuritaire, insécuritaire.
Oui, bien sûr, c'est le thème de prédilection depuis longtemps du Rassemblement national qui dénonce un ensauvagement de la société, la délinquance, etc. Ce qui est très étonnant...
On peut toujours faire la différence sur ce thème, le Rassemblement national, par rapport à la droite, notamment ?
Alors, on dit en général qu'on préfère toujours l'original à la copie, donc on verra au lendemain du 15 et du 22 mars, mais ce qui est étonnant, par exemple, c'est qu'on a des candidats RN, cette fois-ci, qui... atténuent un peu leur discours sur la sécurité pour parler d'attractivité économique, de dynamisme. C'est le cas, par exemple, de Louis Alliot à Perpignan, qui est en tête dans le dernier sondage pour le moment. face au maire sortant LR, eh bien, Louis Alliot accentue des thèmes un petit peu plus variés que les thèmes que les thèmes de prédilection du Rassemblement national, alors que, par exemple, on a le candidat de La République En Marche à Perpignan qui, lui, mise énormément sur la sécurité. Donc il y a une sorte de renversement qui fait que les cartes traditionnelles sont un petit peu brouillées. Et puis, sur la sécurité de droit commun, finalement, le RN... a un petit peu adouci son discours par rapport à la nouvelle peur, en fait, qui est l'islamisme et le communautarisme qui alimente énormément les discours de Marine Le Pen.
Cette insécurité, Alain Bauer, vous disiez tout à l'heure qu'on avait du mal à la mesurer, mais c'est quoi, au fond, ce qui nourrit ce sentiment d'insécurité? Est-ce que ce sont des homicides qui sont très spectaculaires, mais auxquels on n'est jamais ou très rarement confronté, fort heureusement? Ou est-ce que ce sont ces petites incivilités du quotidien qui nourrissent ce sentiment que tout part à volo?
Quand on interroge les gens sur ce qu'ils subissent, ils vous le disent. Ouais. Le problème, c'est que pour ça, il faut avoir un outil qui va chercher la parole des gens. La parole des victimes est un sujet MeToo, mais c'est un sujet mon crime aussi, ma délinquance, ma contravention, mon incivilité. Et donc, dans la réalité, les gens expliquent qu'ils subissent une série complète de difficultés qui vont de la violence subie, le contrôle social au pied de l'immeuble, le fait qu'ils ne sont plus chez eux, que le dealer contrôle le quartier, qu'ils ont eux-mêmes personnellement été victimes de... Et en fait, ce qu'on appelait le sentiment d'insécurité, qui est un mot qui a été inventé pour traduire dans un anglais qui aurait valu zéro à un de mes étudiants s'il osait, fear of crime, la peur du crime, est devenu en France sentiment d'insécurité, comme si c'était un espèce de truc évanescent. Non, c'est un climat. L'insécurité est un climat.
Et alors, vous l'expliquez comment?
Eh bien, parce que depuis une vingtaine d'années, ce qu'on voyait de loin et auquel on ne pouvait pas s'identifier, on le voit de près, on est directement concerné. Le vol de sac à l'arraché, le vol de bijoux à l'arraché, l'agression physique personnelle pour voler la montre, la carte de crédit au distributeur automatique de billets, le téléphone portable, le contrôle des espaces, la violence physique, l'attaque au marteau pour attaquer la bijouterie du coin, a provoqué un phénomène générique d'identification au fait d'une insécurité permanente, visible, perceptible et dont on n'a pas entendu parler, mais dont on a été personnellement témoin, où les conditions sont telles que même si ce n'est pas soi-même, c'est quelqu'un de suffisamment proche pour que sa crédibilité ne soit pas mise en cause. Et donc ça a provoqué cette explosion technique du climat d'insécurité et donc de la demande de sécurité. Or, l'État, dans ces cas-là, répond toujours de la même manière. Un, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Deux, c'est pas grave. Et trois, ce n'est pas de ma faute.
C'est vrai que
évidemment, ça crée un boulevard aux autres.
Driss Aït Youssef, en face de ces actes de délinquance, on a l'impression qu'il y a, le policier est moins légitimé, le professeur est moins légitime, qu'il n'y a plus les institutions qui permettraient de remettre un petit peu d'ordre.
Oui, parce que c'est vrai qu'on arrive au bout de quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque, pendant une manifestation, on essaie de passer le barrage et qu'on, à un moment donné, dénonce un peu le régime policier, on dit non, nous, on a le droit de passer, on veut manifester où on veut, malgré l'arrêté, malgré les interdictions, on a à un moment donné aussi le sentiment qu'il y a une forme de remise en cause de, de la légitimité, vous l'avez dit, du professeur, du policier ou du gendarme. On le remet dans un contexte un petit peu plus global. Lorsqu'on parle effectivement de cette question des incivilités, c'est-à-dire qu'il faut bien avoir à l'esprit que le projet politique, le projet politique publique de sécurité au niveau d'une ville, il peut se matérialiser, c'est vrai, avec une police municipale, parce qu'on voit bien qu'il y a une envie de créer des polices municipales aujourd'hui, mais il faut savoir pourquoi.
Soit on va revenir sur la police municipale. Mais juste un mot, là, ce sondage, quel sentiment vous inspire les policiers? La confiance, à peine 43% et c'est moins 7. C'est pas inquiétant qu'on ait moins confiance envers les policiers. Et il y avait quand même eu cette image il y a une dizaine de jours, là, où on voyait des CRS matraquer des pompiers. On se dit, mais on perd nos repères, nous, en tant que citoyens.
Oui.
Quand deux uniformes en viennent aux mains.
Oui, parce que c'est aussi, à un moment donné, quand je parlais tout à l'heure d'un contexte. C'est le contexte, c'est qu'effectivement, avec les policiers, la situation et les gendarmes, c'est qu'il y a une perte aussi de contrôle. Il y a une perte de contrôle. Il y a aussi absence de management au sein de la police. Il y a aussi des difficultés au sein de la police qui fait que les confrontations prises, à un moment donné, dans une vidéo, sur un moment donné, d'une confrontation extrêmement violente, soit à la fois avec des pompiers ou avec des manifestants qui font que celui qui regarde et qui considère que le policier est avant tout ou incarne un service public de la sécurité à la disposition de la population, donc un vrai service public, eh ben, au final, ce n'est pas du tout ça, parce que les commentaires qui vont avec, c'est évidemment une police au service d'un État policier, d'un État répressif à la limite de la dictature, eh ben, on voit bien que la confiance, elle diminue, ce qui ne veut pas dire qu'elle diminue définitivement. Mais le problème, c'est que la police souffre aujourd'hui d'une image, ou en tout cas d'un positionnement, d'où des initiatives d'un certain nombre de policiers qui essayent à un moment donné de prendre individuellement, soit par les réseaux sociaux, une position pour expliquer véritablement ce qu'est leur métier, à différence des organisations syndicales qui sont là pour défendre des corporations, et donc qui essaient de faire ce travail. Mais ce qui est extrêmement compliqué aujourd'hui, c'est d'avoir le sentiment qu'il y a un fossé qui se creuse entre la police et une partie de la population, et en particulier les jeunes, parce que ce que vous dites, c'est surtout chez les jeunes où il y a quand même une forme de défiance la plus importante à l'égard des policiers.
Donc une police discréditée, et Cécile Cornudet, il y a aussi une justice qui est jugée trop laxiste. Enfin, combien de fois on entend-on...
Je vais venir là-dessus, je voudrais juste rajouter une chose. Pourquoi c'est embêtant ce regard sur la police? C'est que ça crée un cercle vicieux. Comme on ne reconnaît pas la légitimité de la police à utiliser la violence, eh ben on dit ben, elle le fait alors qu'elle ne devrait pas le faire, donc moi je peux le faire. Et donc ça crée un cercle vicieux qui fait qu'on est dans cet ensauvagement de la société. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Castaner, mais il y a aussi l'image de Nicole Belloubet, qui...
Le délinquant remis en liberté le lendemain même,
voilà,
après avoir été arrêté.
C'est récurrent. Et en plus, on a une nouvelle loi justice qui va rentrer en application le 24 mars, qui dit que les peines de 1 an de prison ferme, elles ne seront pas faites en prison. Ils vont trouver d'autres alternatives à cette peine-là. Et ça, c'est Xavier Bertrand le pointe en disant que ça va être une déflagration. Déjà, on ne sait pas gérer les prisonniers. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens? D'autant qu'en ce moment, il y a une telle explosion de la délinquance que les juges sont plutôt en train d'augmenter les condamnations à la prison. 8%, je crois, en un an.
Donc c'est un faux procès que de dénoncer le laxisme supposé de la justice.
Des juges, oui, mais du ministère de la Justice, comme ils voudraient dépeupler les prisons, on a des records mondiaux, je crois, de surpopulation carcérale. Du coup, il y a toute une politique qui est engagée pour essayer de vider les prisons. Mais pendant ce temps-là, les juges, effectivement, dans les tribunaux, eux, ils condamnent à la prison. Alors, comment on va gérer cette contradiction? On ne sait pas, et ça commence à la fin du mois de mars. Mmh.
Alain Bauer, donc on a des institutions qui peinent à répondre, qui ont du mal à répondre à cette perception d'une violence qui s'étend et qui gangrène la société, qui devient ensauvagée, comme on dit.
Ouais, vous savez ce qu'on disait dans le temps, qu'est-ce qu'un réactionnaire, un libéral qui s'est fait agresser? Et donc la réalité, c'est que le niveau d'augmentation de la violence physique directe a créé ce retournement, y compris chez les magistrats. Ils sont eux-mêmes directement confrontés à violence. Violence dans les prétoires, violence dans les agressions qui les concernent. Donc ils se sont rendus compte que la réalité n'était pas simplement une protestation virtuelle d'un avocat qui était particulièrement en forme pour expliquer tout ce que la victime avait subi, mais il a aussi face à lui des avocats qui défendent des victimes, des parties civiles, et pas seulement des avocats qui essayent d'expliquer que le client n'était bien pour rien. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le système judiciaire en France ne sait pas faire entre rien et trop. Parce qu'il sait faire trop, il sait faire beaucoup. Notre code pénal, c'est prison pour tout et pour tous. Donc évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Donc on invente des dispositions alternatives à la peine, aux poursuites, puis des dispositifs alternatifs à la peine, puis des dispositifs alternatifs à la prison. C'est-à-dire que tout en proclamant la fermeté absolue, la prison, machin, en fait, on fait tout ce qu'on peut pour qu'elle n'existe pas. Et même quand à la fin du processus, on est condamné, le dispositif veut que jusqu'à 2 ans de prison, c'est le texte Dati, je n'ai pas besoin de Nicole Belloubet pour ça, on puisse ne pas aller en prison. Là, c'est 1 an, on n'y va pas du tout, mais c'est un processus qui ressemble beaucoup au précédent. Et deux, il y a des dizaines ou des centaines de milliers de peines qui ne peuvent pas être exécutées, faute de place. Donc il y a tout un dispositif où il faudrait enfin se mettre d'accord pour dire que la prison, c'est pour les violents, et tout ce qui n'est pas la violence, ce n'est pas la prison qui est la réponse à la question. Nous aurons déjà fait un immense pas. Deuxièmement, il y a une
erreur. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison qui ne devraient pas y être.
Oui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en prison et qui devraient y être. Et en fait, il y a un problème de transfert. Deuxièmement, il y a un sujet qui est très important, qui est la capacité à considérer que nous avons tort sur les courtes peines de prison. Nous avons des exemples désormais clairs, notamment aux Pays-Bas, où les prisons sont vides, parce que quand on est condamné, la première fois, on a droit à une deuxième chance, et c'est bien normal, mais la deuxième fois, on y va en prison, même si c'est que pour un week-end ou 7 jours, pour casser le process. Nous, jusqu'à la 117e comparution, on essaye d'éviter la prison de ces pauvres petits qui, un jour, vont peut-être se remettre dans le droit chemin. Ça ne marche pas. Par contre, à la 117e fois, le gamin qui n'a été condamné à jamais rien prend 3 ans ferme.
Pensez-vous donc les Français ont des raisons de douter de l'efficacité de nos institutions face à cette violence.
Oui, parce qu'elles ne sont pas adaptées, elles fonctionnent en prêt-à-porter et pas en sur-mesure.
Mais parce qu'on arrive aussi au niveau de l'administration pénitentiaire aussi, quand j'ai au bout de quelque chose, c'est-à-dire que en fait, quand on dit qu'on est entre 126 et 150% de surpopulation carcérale, on a environ 1500 matelas posé au sol. Et donc la difficulté pour la justice judiciaire, c'est de dire est-ce que cet individu que je vais condamner parce
qu'il mérite ce traitement derrière.
Mais c'est majoritairement, c'est-à-dire que majoritairement aujourd'hui les juges sanctionnent plus durement, c'est-à-dire que les peines sont beaucoup plus lourdes qu'avant. Ça c'est statistiquement prouvé. Elles sont 8% plus lourdes qu'avant. La difficulté c'est de dire est-ce que l'individu que je vais envoyer en prison, la prison c'est pas une fin en soi, mais est-ce que l'individu je vais pouvoir l'enfermer dignement et puis ensuite le rôle de la prison c'est de faire prendre conscience à l'individu qu'il a commis un crime ou un délit et qu'il est là pour le réparer, parce qu'il a causé un préjudice à la société et ou à des individus, et qu'ensuite, il faut préparer l'individu à sa réinsertion. Sans quoi, vous avez ce qu'on appelle la récidive. Et puis ensuite, vous avez des policiers qui vous disent attendez, le type, on l'a arrêté, c'est la 17e fois qu'il ressort, etc. Mais oui, parce que la prison ne prépare pas à la réinsertion. Et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui est surchargé, qui aujourd'hui fait plutôt de la détection, de la radicalisation des individus, aujourd'hui n'a pas les moyens de prendre en charge. Donc on est dans une situation où dans les prisons, globalement, avant, on pouvait gérer son trafic de stupéfiants depuis la prison. Maintenant, depuis la prison, on peut commettre un attentat en prison. C'est-à-dire qu'en fait, on a des individus qui commettent des attentats en prison. C'est dire qu'on arrive dans les prisons à un niveau qui n'est, c'est même pas plus gérable, qui a explosé. C'est-à-dire qu'en fait, les prisons, aujourd'hui, elles ont explosé, elles ne sont plus gérables. On a du personnel pénitentiaire qui est quand même au bout. Et que même
les
si
prisonniers sont à deux doigts de prendre le contrôle, de prendre le dessus, c'est
ça ? Non, mais ce n'est plus gérable.
Pour les empêcher de sortir.
Mais ce n'est plus gérable, la situation. C'est-à-dire que même si demain, et dans le programme présidentiel du président de la République, Emmanuel Macron, c'était 15 000 places de prison, et que si d'aventure les places étaient livrées demain, c'est-à-dire dimanche, on serait à un taux de population à 100%, mais dans le même temps, on ne sait pas quoi faire avec tous ces détenus. Et la question sur les détenus, les terroristes islamistes ou les détenus emprisonnés pour des faits de droit commun, mais radicalisés, vous avez un peu moins de 400 places de prison, et ce sont des places à l'isolement. Comment on traite ces individus ? Donc le sujet, il est exactement le même.
Alors, à 5 semaines du premier tour des élections municipales, le thème de la sécurité fait son retour dans la campagne. Nous sommes allés à Montpellier, où les faits de délinquance sont en augmentation de 12% sur un an. Un argument de poids pour tous les candidats à la mairie. Vous voyez ce sujet de Walid Berissoul et Pierre-Jean Perrin.
Un après-midi en campagne, dans le centre de Montpellier.
Si tu prends le tram tard le soir, tu te sens pas en sécurité ?
Je prends jamais le tram tard le soir.
Tu n'oses pas ?
Non.
Au chevet de ce sentiment d'insécurité récurrent dans les conversations, de quoi donner à ce député La République En Marche le ton de sa candidature à la conquête de l'hôtel de ville.
Est-ce que vous savez qu'à Montpellier, il y a plus de 8000 logements qui sont fermés parce que les gens s'en vont, parce qu'ils ont peur de rentrer le soir chez eux ? Le problème, si vous voulez, c'est la paupérisation, c'est le fait qu'il y a des gens mal fréquentables et que les gens ont peur de venir en ville. Je crois qu'il faut remettre un peu d'ordre.
Dans la 7e ville de France, la délinquance a augmenté en 2019. Particulièrement les délits dits de proximité. Vol à l'arraché, dégradation, incivilité. Une insécurité du quotidien vécue au plus près par les commerçants.
Vous seriez venu hier à la même heure.
Oui.
En face, il y a un magasin fermé. On a eu une agression avec une bagarre de SDF. On a fait le 17. 24 heures après, on les attend encore. Mais on apprend à vivre avec la violence, en fait. On en a ras-le-bol. On passe notre vie à répéter quelque chose. Tout le monde s'en fout. Et il ne se passe jamais rien. Donc, en fait, on n'attend qu'une chose. C'est qu'en fait, on prenne le dossier en main.
À la fois, vous aurez 100 policiers municipaux, à la fois, vous aurez un bouton SOS. Vous avez un bouton, voilà. Et moi, je m'y engage.
En attendant, certains vont un cran au-dessus, dans l'autodéfense.
C'est une arme à gaz, avec une cartouche de gaz. et qui envoie des projectiles en caoutchouc.
Ce gérant de bar, qui souhaite garder l'anonymat, dit avoir été victime récemment d'une tentative de vol avec violence.
Quand on a trois personnes, deux là et un derrière avec des couteaux, ben je pense que rien que de le sortir, finalement, c'est dissuasif. Voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui à Montpellier.
À Montpellier, 11 candidats se disputent le fauteuil du maire. Et tous envisagent d'augmenter les effectifs de la police municipale. Jusqu'à 250 agents supplémentaires. Dans cette ville traditionnellement ancrée à gauche, les discours se font plus musclés.
À Montpellier, le thème central, et c'est la première fois d'ailleurs que ça arrive, ça va se jouer sur la sécurité, parce que la situation s'est vraiment dégradée de façon considérable. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que les autres candidats, même les gens d'extrême-gauche, en font une priorité, ce qui est quand même assez surprenant par rapport à leur positionnement historique. Ce n'est pas qu'un fantasme, c'est pas un fantasme de droite, c'est une vraie réalité quand vous regardez le programme de tous les candidats.
Sur les tracts du candidat soutenu par le Parti socialiste, le trafic de drogue et la petite délinquance sont dénoncés avec un ton plus ferme, quitte à rendre certains électeurs un peu perplexes.
Cette phrase, la petite délinquance doit être combattue car c'est la criminalité de demain. Ça ne nous amènerait pas à stigmatiser certaines catégories socioculturelles de personnes en fait.
Non, parce que malheureusement, c'est la délinquance qui est un problème. Et il n'y a pas des gens qui sont plus délinquants que d'autres. La question, elle n'est pas de stigmatiser, elle est de régler le problème. Moi, j'assume un discours qui est simple. Dans une société, on ne vit pas sans règles. Et les règles, elles sont là pour être respectées.
À quelques minutes du centre-ville, un quartier a récemment été classé zone de reconquête républicaine. La candidate écologiste dissidente y joue les lanceuses d'alerte auprès de la population.
Vous savez pourquoi il a été fermé, le commissariat, là ? Il y avait tellement de blattes, ils étaient envahis par les blattes, ils ont été obligés de le fermer.
Ils ont traité ou pas ?
Ben, ils ont traité, mais sauf que dans 24 heures, il y a de nouveau des blattes qui vont revenir. Ils travaillent dans des conditions qui sont très difficiles.
Dans les derniers sondages, c'est elle qui aujourd'hui a le statut de favorite, en assumant un discours plus axé, dit-elle, sur la prévention.
Oui, il faut mettre des policiers municipaux en plus, bien sûr, pour qu'ils soient sur le terrain. Mais c'est surtout, qu'est-ce qu'on leur fait faire? Si c'est pour les faire se trimballer dans des voitures à faire des contrôles de ceinture de sécurité, ça ne sert à rien. Le but, c'est de les mettre, la police municipale, à faire de l'îlotage, rencontrer les habitants, les connaître, échanger, discuter, que les gens se sentent en sécurité.
Des candidats qui s'activent, alors qu'un étrange silence s'impose à l'hôtel de ville. Le maire sortant n'a toujours pas dévoilé ses intentions sur sa candidature. Et son équipe n'a pas donné suite à nos demandes d'interview.
Alors, question téléspectateur. Les maires ont-ils les moyens de répondre aux besoins de sécurité de leurs électeurs ? Cécile Cornelier, d'ailleurs, la sécurité, ça relève de compétences locales ou nationales ?
Ça relève des deux. Et les gens, ils veulent être en sécurité. Donc, ils interpellent leur maire et ils interpellent l'État. Le problème, c'est que parfois, on ne sait pas très bien qui fait quoi. Il y a certaines communes où le maire a du mal à être informé par la police de ce qui se passe en termes de crimes, de cambriolage, etc. Donc, il demande beaucoup une meilleure coopération. Ça, c'est dans tous les programmes pour les municipales, une meilleure coopération avec la police. Mais parfois, il y a des hostilités personnelles, c'est compliqué. Et puis, qui fait quoi? Quand vous avez l'État qui fait une police de proximité, en quoi c'est très différent d'une police municipale qui se promène dans les rues? Est-ce que l'État ne devrait pas plus sur les enquêtes judiciaires, etc. Il y a toute une réflexion à avoir autour de ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas défini vraiment des pouvoirs. Je crois, je ne suis pas professeur moi, là-dessus, mais je crois que les pouvoirs du maire en matière de police, ils peuvent être assez grands si le maire veut s'en saisir.
Preuve en tous les cas que les municipalités ont pris le sujet à bras-le-corps. Les caméras, qui étaient très critiquées il y a 10-15 ans maintenant, elles se généralisent partout en France. Alors on va dire que si, c'est au détriment de nos libertés civiles. On est filmé, traqué.
Mais les polices municipales aussi étaient très critiquées. C'était un résidu. Il faut se rappeler que, comme dans tous les pays normaux, en France, c'est le territoire qui fait la loi. Et donc la police, elle était d'abord locale. La police d'État, c'est une invention du maréchal Pétain.
Tout à fait.
Et de rien d'autre. Il n'y avait pas de police d'État avant. La police d'État, elle était limitée aux grandes enquêtes judiciaires, à la protection des institutions. Le reste était local. La gendarmerie s'était sédentarisée pour des raisons de protection des routes, des convois et du ravitaillement et d'aller chercher les déserteurs. Et le reste, c'était des polices locales parce que les franchises étaient municipales et que tout ça fonctionnait relativement bien. Puis peu à peu, la relation entre police et élus locales se transformait en agents politiques, en lutte contre les adversaires. Et puis, il y avait beaucoup de résistance résistants, notamment dans le sud et l'ouest de la France. Et à un moment donné, l'État a centralisé sa police.
Donc c'est une invention du maréchal Pétain.
Oui, ils n'ont jamais été. La police d'État n'est pas républicaine par nature. Donc c'est elle est peut-être devenue, mais elle ne, l'est pas, elle ne l'a pas été. D'ailleurs, elle n'est pas très fière de ses origines. On n'enseignait pas l'histoire de la police dans les écoles de police. Il y avait des raisons. La deuxième partie de cette histoire, c'est qu'en 1946-47, quand la résistance est revenue et que la République s'est réinstallée, il y a eu un référendum visant à revenir au statu quo ante. Sauf que le Parti communiste faisait 37% des voix et contrôlait toutes les banlieues ouvrières de toutes les grandes villes, et que l'État n'a pas voulu donner au PCF moscoutaire le contrôle des villes. Donc on a gardé une police d'État. Et cette police d'État, on lui a demandé de tout faire. Et peu à peu, on a étatisé toutes les polices. D'accord. Dans les lois de décentralisation de 83, la seule chose qui est centralisée, c'est les dernières polices municipales par Gaston Defferre. Vous voyez, un résidu. Et puis, peu à peu, évidemment, les maires ont compris que le sujet était devenu central.
Et
ils ont
le
redonné
reprennent.
Des pouvoirs. Et ils ont tout fait. Des polices municipales, des polices routières, du stationnement, de la circulation, de l'intervention, de l'îlotage, du contrôle de vitesse, c'est autorisé désormais, du contrôle d'éthylotest. Bien, ils ont eu beaucoup, beaucoup de pouvoir. Et tout d'un coup, la police d'État s'est dit, en fait, c'est super bien, on va arrêter de faire les sorties d'école, on va arrêter de faire les campings, on va arrêter de faire tout ce qui est et on va refaire de l'intervention. Mais évidemment, ça n'est pas suffisant. D'abord, il y a beaucoup de maires qui n'ont pas les moyens d'avoir une police municipale, 36 000 communes en France. S'il y en avait 10 fois moins, évidemment, on reviendrait dans tout ce qui est la réalité européenne, où il y a des polices locales fédérales, et puis tout d'un coup, il y a une police suprême qui a des fonctions particulières. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, dans la réalité, les maires font beaucoup, beaucoup d'efforts, mais ça leur coûte très cher, et leurs électeurs en demandent toujours plus, puisque pendant le même temps, la police d'État D'accord. se retire.
Alors, Driss Ait Youssef, dans cette volonté de décentraliser, de redonner un petit peu aux agents locaux le pouvoir de faire la police, Christophe Castaner a lancé 47 quartiers de reconquête des territoires. Ça consiste en quoi ? Et est-ce qu'il s'agit, quand il a dit il s'agit que la République ne recule pas d'un pouce, est-ce qu'il y a des territoires où la République avait un peu abdiqué ou a abdiqué ?
Ah oui, absolument. Vous avez effectivement ces quartiers de reconquête républicaine où globalement, on va émettre beaucoup plus de police de proximité avec des polices, des brigades très très spécialisées.
Sont confrontés à quoi ? Alors à des bandes ?
Ah ben, qui sont confrontés à des réseaux structurés qui n'ont certainement pas intérêt à ce qu'effectivement il y ait des policiers qui pénètrent, parce qu'au fait on revient un petit peu en arrière, c'est-à-dire avec cette police du renseignement, c'est-à-dire qu'ils ont aussi pour un certain nombre de brigades qui sont très spécialisées d'aller harceler directement les réseaux, les revendeurs de drogue, et puis surtout d'aller tisser du lien avec de la population, parce que c'est comme ça qu'on arrive à sortir de l'information. Là la difficulté c'est qu'effectivement le travail avec les élus locaux il peut être quelquefois difficile si on prend le sujet de la police municipale. Parce que c'est là où il y a, à mon avis, une grande incompréhension. Quand on parle de police municipale en France, c'est combien ? C'est un peu moins de 23 000 policiers municipaux, qui sont des policiers payés par la commune, par le maire.
On leur demande... Ils sont souvent pas armés, hein.
Et qui sont la plupart d'entre eux pas armés, parce que d'armer une police municipale, ça coûte très cher. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la police municipale, elle exécute ce qu'on appelle les pouvoirs de police administrative du maire. Et donc, ce ne sont pas des pouvoirs de police judiciaire. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'on appelle de l'investigation, d'aller poursuivre des trafiquants de drogue, sauf d'intervenir, comme vous et moi, dans le cadre de ce qu'on appelle de la flagrance, flagrant délit. Vous appréhendez un individu qui vient de commettre un crime
délit. Donc, elle n'est pas outillée pour démanteler les réseaux un coup de pied à la fourmilière.
Elle n'a pas le droit. D'accord. Elle n'a pas le droit. Elle a c'est tout au dire. Plus un transfert que lui a accordé l'État. C'est cette qualification fin 99 depuis des années 2000, agent de police judiciaire adjoint. Et donc, elle donne la capacité, la possibilité aux policiers municipaux de dresser ce qu'on appelle des procès-verbaux, des contraventions au code de la route. Donc, c'est contraventionnel. La subtilité, c'est qu'il faut bien l'intégrer, c'est que l'État confie cette responsabilité aux policiers municipaux de verbaliser des contrevenants, mais c'est l'État qui encaisse. Donc c'est plutôt un transfert de charges plus un transfert de mission.
Il y a décentralisé.
Donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Alors que le maire, si on prend la loi de mars 2007, le maire est le coordonnateur, j'ai envie de dire, de la politique locale de prévention de la délinquance, donc de prévention. Et le maire a un peu tendance, à mon avis, à un peu pousser pour effectivement répondre à une demande, comme l'a dit très justement Alain Boer, c'est celle où on en redemande toujours plus. Alors que le maire, on se souvient, avec ses médiateurs qui faisaient la tournée des collèges, des lycées, pour justement éviter que des bandes ne s'affrontent, pour essayer de faire parler les uns les autres, essayer d'aller chercher le décrocheur qui n'a pas été à l'école depuis une semaine pour le ramener à l'école ou prévenir les parents. Et donc, progressivement, on a abandonné un peu ce pan de la prévention, de l'éducation, de la prévention, pour aller un peu plus vers, finalement, de la verbalisation, la lutte contre les rodéos sauvages, le squat des halls d'immeubles, le dépôt
sauvages. Justement, pour revenir sur ces phénomènes, est-ce qu'il faut les mettre en parallèle avec la perte des institutions, la perte de repères? Du coup, on se construit à l'intérieur de bandes où ce sont la loi des bandes, des codes d'honneur qui agissent, et sur les réseaux sociaux, on se lance des défis et ça termine de façon parfois dramatique avec cet enfant de 14 ans qui a subi un coup de couteau la semaine dernière lors d'une attaque de deux bandes en plein Paris.
D'abord, la constitution d'une bande, elle est toujours en référence à quelque chose ou à l'appropriation d'un code ou d'un territoire. Voilà. Généralement, une bande, c'est l'appropriation d'un territoire. On défend son territoire. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des individus qui ne sortent plus du quartier, sauf à 5 ou 10. Et donc ensuite, on est, pour la plupart d'entre eux, dans une logique aussi de déscolarisation. C'est aussi ça le sujet. C'est-à-dire que là où le maire, à un moment donné, qui est l'animateur du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui doit pouvoir, avec l'éducation nationale, travailler pour faire en sorte que le gamin ne décroche pas de l'école, parce que le décrochage scolaire, c'est l'antichambre de la délinquance, c'est l'antichambre de la radicalisation, et demain, c'est l'antichambre du terrorisme. Donc on voit bien que les individus qui posent des bombes ou qui quittent le territoire pour se rendre dans un théâtre d'opérations terroristes extérieures sont peu ou pas diplômés, des primo délinquants, et correspondent parfaitement bien, finalement, à ce que ces individus étaient il y a quelques années. Et la difficulté de la lutte contre ces bandes, c'est que ça ne peut pas être à la police nationale d'aller faire du social et d'aller expliquer aux gamins qu'à 14 ans, à 22h, il ne doit pas être dehors, sauf s'il y a un arrêté du maire, ou encore moins le policier municipal, s'il en a les moyens, parce qu'une police municipale, ça coûte très cher, ça va, avec couplé une vidéoprotection, ça coûte très cher. Donc la question est évidemment liée à la bande, elle se pose avec toutes les difficultés à gérer une bande, c'est-à-dire que quand la bande est constituée, aller envoyer un équipage de policiers national ou de policiers municipaux aller appréhender ces individus, c'est extrêmement compliqué et généralement ça finit très mal.
Oui, Evan Trippenbach.
Oui, ce qui est frappant en tout cas, c'est qu'on a 6 Français sur 10 aujourd'hui qui attendent plus de pouvoir en matière de sécurité de leur maire. Donc on peut imaginer que ça s'inscrit dans un contexte global de défiance à l'égard des institutions et de l'État et qu'on se retourne vers une figure de proximité, figure politique de proximité, un représentant des institutions de proximité. Et on a aussi une autre raison, c'est que ces dernières années, la police nationale, l'État, s'est un petit peu effacée des territoires. Elle a été très mobilisée sur l'antiterrorisme, sur le renseignement. De manière conjoncturelle, on a eu la crise des Gilets jaunes, qui a mobilisé, par exemple, des effectifs, des BAC sur du maintien de l'ordre, et donc des effectifs en moins sur l'interpellation, sur la délinquance, sur la lutte contre le crime organisé, admettons. Donc on a un retrait de l'État qui peut avoir des conséquences, on l'a vu sur les chiffres des violences tout à l'heure, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même une demande de sécurité visible au quotidien. Donc ça, le gouvernement l'a effectivement compris avec les quartiers de reconquête républicaine, en tout cas, il tente de le faire. Et aussi, deuxième conséquence, politiquement, la sécurité, on l'a dit, est devenue un sujet assez consensuel. Finalement, les clivages dans ces campagnes s'établissent sur d'autres sujets, sur les outils, l'armement ou pas de la police municipale, les caméras piétons ou non, et sur le but de cette police municipale. On a vu dans le reportage que des candidats de gauche disaient plutôt, voilà, c'est pour faire le lien avec la population, lutter contre les incivilités, contribuer à la tranquillité publique des habitants. Les candidats de droite vont plutôt insister sur l'armement, sur la répression. Voilà.
Mais il y a un consensus pour dire qu'il faut prendre au sérieux et renforcer la sécurité au cœur de nos villes.
Notamment à travers cette police municipale. Oui.
Alors, en septembre dernier, le gouvernement lançait depuis Marseille un plan national de lutte contre les stupéfiants, signe que dans ce domaine également, les chiffres ne sont pas bons. Les quantités de drogue saisies augmentent d'année en année, notamment dans les communes rurales où la consommation de drogue est en forte hausse, même si elle ne se voit pas toujours. Sujet de Julien Launay et Ariane Morisson.
Il y a quelques mois, au petit matin, dernier préparatif dans cette brigade de gendarmerie en Haute-Saône. But de l'opération, démanteler un réseau de trafic de stupéfiants à Lure, localité de près de 10 000 habitants.
En fait, c'est un réseau structuré entre l'arrondissement de Lure, puisque ça alimentait les lycées de Lure, grâce à l'initiative de la brigade, donc on a pu remonter sur 2-3 revendeurs jusqu'à Villeurbanne, donc, où un objectif sera également tapé à 6h du matin.
5h30, les forces de l'ordre se mettent en route en direction d'un petit village pour y interpeller un jeune couple. 6 heures, comme l'indique le clocher de l'église, début de la perquisition.
On est dans un trafic de stupéfiants, donc forcément, pour éviter une déperdition des preuves, on procède à une effraction pour faire le choc, la surprise et favoriser la rapidité de l'intervention.
Inspection minutieuse du domicile et des voitures du couple à l'aide d'un maître chien. Rien n'est retrouvé sur place, mais le travail d'enquête va aboutir à une saisie. Environ 2 kilos de résine de cannabis, 147 grammes d'herbe et 56 grammes de cocaïne. C'est lui, le dealer présumé, alors qu'il n'était apparemment que simple consommateur au départ.
On comprend qu'on peut faire un peu de profit, que ça peut payer même sa propre consommation, et du coup, commence à se monter un petit réseau local entre amis, et puis qui le bouche à oreille, et puis ça prend des proportions.
Et il ne s'agit pas d'un cas isolé. Le trafic est implanté en milieu rural depuis des années et prospère à certains endroits, comme ici dans la Somme. Ce médecin exerce dans la ville de Ham, et il connaît bien le fléau.
La CAM, ce n'est pas réservé aux cités pourries de certains départements du voisinage parisien. On parle des ghettos dans les cités, etc. Mais ici, il y a de la CAM dans quasiment tous les petits villages. Il y a des points de deal un peu partout. Il y a des gens qui consomment tous les jours, tout le temps, et ils sont beaucoup plus nombreux que probablement beaucoup de gens l'imaginent. Il n'y a pas de profil type. Il y a des gens qui sont au bas de l'échelle, il y a des enfants de notables, tous les milieux sont touchés.
Dans cette zone géographique où passe l'autoroute A1, les supermarchés de la drogue en Belgique et aux Pays-Bas sont proches. Pour autant, dans d'autres campagnes ailleurs en France, c'est tout aussi facile de s'approvisionner en produits stupéfiants.
On a une offre de produits qui est à peu près identique, que l'on soit dans des petites, dans des moyennes ou dans des villes très, 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 très petites et très isolées. D'abord parce que des gens font pousser localement du cannabis, alors c'est encore très marginal, mais ça existe, soit pour la consommation personnelle, soit pour une petite revente et un trafic, j'allais dire, local. Vous avez également un certain nombre de produits qui peuvent être commandés par Internet et vous être adressés à votre domicile par les systèmes de livraison à domicile. Et puis, de toute façon, les réseaux ont infiltré l'ensemble du territoire. Vous avez un exemple qui est assez significatif, selon moi. On parle souvent de la question de la cocaïne qui vient de Guyane par le phénomène des transporteurs, qu'on appelle un peu vulgairement les mules. Ces mules, une partie d'entre elles, vont directement dans des petites villes.
La cocaïne et son usage de plus en plus répandu. Selon un rapport, plus d'1,5% des Français déclarent en avoir consommé en 2018. Chiffre record.
Alors, question téléspectateurs, les zones rurales ne sont-elles pas moins bien protégées que les villes, Alain Bauer ? C'est souvent un reproche que l'on fait, c'est que les campagnes sont oubliées.
En fait, ce qui est le moins bien protégé, c'est entre les villes et les zones rurales, c'est l'espace dit urbain. D'abord parce qu'il a énormément augmenté en population, considérablement, il a gagné des millions d'habitants, et que ni les gendarmes ni les policiers n'ont réussi à suivre, les uns étant concentrés au cœur des villes pour des missions notamment d'ordre public, comme ceci a été indiqué tout à l'heure, et les gendarmes étant au cœur des zones qui sont traditionnellement les leurs. Il y a une espèce de bataille permanente qui font qu'on va de un policier pour 100 habitants au cœur des grandes villes, à 1 pour 800 au cœur des zones urbaines, mais à 1 pour 500 dans les zones rurales. Donc ce n'est pas exactement vrai. Deuxièmement, ce n'est pas le sujet, parce que la distribution de stupéfiants n'est pas un sujet de contrôle territorial ou de prédation. Ce n'est pas le contrôle des immeubles, parce que l'immeuble, c'est fait pour garder le stock et préserver la zone de chalandise. Là, on est dans des réseaux de distribution de type petit boui-boui du coin. On a le petit boui-boui du coin, la supérette et le supermarché, chacun ayant son...
Ce sont les mêmes réseaux qui s'étendent jusque dans les campagnes?
Non, c'est 3 réseaux différents. Par contre, c'est le même service de distribution. C'est-à-dire qu'il y a une centrale d'achat qui permet de
distribuer. Dans la grande distribution. Hein.
Mais c'est exactement le même système, ça fonctionne exactement pareil. De toute façon, le trafic de stupes fonctionne comme le commerce traditionnel. Zone de chalandise, investissement dans la recherche-développement, incentive pour le petit personnel. Seule la concurrence est plus définitive que dans le commerce traditionnel.
Driss Saïd Youssef, est-ce qu'il y a des territoires qui sont entièrement structurés autour de ce trafic de drogue et qui en vivent et c'est une véritable économie ?
Oui, il y a des réseaux, c'est vrai, plus structurés. Mais pourquoi ce n'est pas la même chose que dans un milieu urbain ou dans un quartier? Parce qu'on a le sentiment, à juste titre, lorsqu'on voit des reportages dans une cité, bah, ça pose une vraie difficulté parce que ça empêche tout le monde de vivre. Vous rentrez chez vous, vous êtes presque obligé de donner votre carte d'identité ou vous êtes quasiment raccompagné jusqu'à chez vous pour voir si vous n'allez pas regarder ou est-ce que le type est en train de planquer sa drogue. Et ça, c'est ce qui génère évidemment un sentiment d'insécurité très fort et ce qui exaspère la population. Là où, en milieu rural, c'est beaucoup plus diffus, c'est beaucoup plus muet. Il y a un trafic qui est muet. Et comme l'a dit très justement le délégué interministériel, c'est qu'il y a beaucoup de réseaux où les individus vont vendre pour financer leur propre consommation, la consommation personnelle. Mais on a quand même évolué, où c'était le cannabis, l'héroïne, aujourd'hui c'est la cocaïne. Et la cocaïne ne parvenait pas dans ces territoires il y a encore quelques années. C'est quand même un phénomène assez récent, et pour ne pas dire inquiétant. Et la difficulté, c'est de dire qu'effectivement, ce sont plein de petits trafiquants, plein de petits réseaux, et qui vont mobiliser, compte tenu de la densité, compte tenu du territoire, des équipes de gendarmerie, dont le métier, ou dans la vocation, ou dans les tâches quotidiennes, c'est pas forcément le démantèlement de trafic de stupéfiants, mais plutôt effectivement l'infraction au code de la route et autres missions de sécurité publique. Donc la difficulté, c'est qu'effectivement, on a affaire à deux trafics qui ne sont pas les mêmes trafics, qui ne génèrent pas la même difficulté, mais qui sont aussi dangereux pour la santé et qui ne s'appréhendent pas de la même manière.
On a l'impression que ces réseaux sont plus outillés, mieux équipés, même que la police qui est censée les traquer, et que c'est une bataille asymétrique. Avec des réseaux.
C'est vraiment, il faut avoir à l'esprit que le juge, pour un individu qui, par exemple, se fait choper pour la première fois, celui avec 2 kilos de cannabis, je ne suis pas certain que le type ira en prison, surtout s'il explique que c'est pour financer sa consommation personnelle et que le type, on voit bien qu'il ne vit pas dans un luxe opulent, etc. Et toute la difficulté, c'est de dire effectivement qu'on est quand même dans des zones rurales une paupérisation extrêmement importante. Et donc la difficulté, c'est aussi à un moment donné, et la même question se pose aussi bien pour ces zones rurales que des zones urbaines, c'est-à-dire que le jour où effectivement vous supprimez les drogues dans un certain nombre de cités, si vous ne proposez pas des alternatives parce que vous avez des familles entières ou des quartiers entiers qui vivent à un moment donné de cette économie parallèle ou souterraine, si vous n'offrez pas des alternatives un peu politiques de la tolérance zéro, c'est quoi? C'est pas uniquement mettre plus de policiers, mais les former, c'est aussi proposer des alternatives sociales et aussi économiques. Mais si, dans un certain nombre de territoires, vous n'offrez pas effectivement ces alternatives, permettre à des individus qui vivaient de petits trafics ou de trafic, à un moment donné, parce que dans un réseau de trafic de stupéfiants, ils sont pas nombreux à bien gagner leur vie, ceux qui font le guet ne gagnent pas bien leur vie, il faut aussi dire la vérité, si vous n'offrez pas des alternatives, et à un moment donné, vous allez avoir des territoires qui vont totalement exploser. C'est pareil dans des zones
rurales. C'est-à-dire totalement explosées.
On va être dans des situations ingérables, avec des émeutes urbaines, avec plein de choses. C'est ça aussi, la réalité, elle est là. Vous retirez le cannabis dans les prisons, vous retirez le cannabis dans les prisons, vous n'avez plus de prison.
Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'au fond, si on combat le trafic de drogue, on va provoquer une explosion parce que le trafic de drogue, quelque part, irriguait une espèce d'économie qui vaut ce qu'elle vaut, mais
c'est une réalité.
Qui permet de faire vivre un quartier et des familles.
C'est une réalité. Il faut
facteur de paix sociale.
Mais bien sûr, c'est une réalité. C'est pour ça qu'il faut proposer à côté des alternatives économiques. Il faut, c'est pour ça, d'où la question de la politique de la ville, restructurer les territoires, proposer de l'emploi. Ouais. Mais c'est ça, c'est permettre à Saint-Onde de s'en sortir autrement. La question de la prison, elle est aussi identique. Quand vous préparez un individu à sa réinsertion, si vous lui dites, on n'a pas de boulot à te proposer, tu vas rentrer chez toi dans ton quartier, je suis pas sûr qu'ils s'en sortent, ou en tout cas, on va avoir un taux de récidive qui n'est pas prêt de baisser.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. La question de l'insécurité est-elle le boulet pour Emmanuel Macron, Cécile Cornudet? C'est vrai que le président se targue de bons résultats sur le plan économique, avec le chômage qui baisse, etc., mais il a ses chiffres.
Il a toujours en tête le précédent Lionel Jospin. Vous savez, il avait eu des bons résultats en termes de chômage. On a eu une explosion de l'emploi, etc. Mais il y avait une faille sur la question de la sécurité. Il n'a même pas été au second tour de la présidentielle de 2002. Ça, il l'a vraiment en tête. C'est depuis le début, depuis sa campagne, déjà de 2017, on disait, on voit qu'il a fait un parcours dans l'économie. Qu'est-ce qui vaut sur les questions régaliennes? Il y a depuis le début une grosse interrogation. Et là, avec les mauvais chiffres et puis l'offensive de la droite, ça risque de devenir important pour lui.
Christophe Castaner est-il apprécié par les policiers? Ivan Trippenbach, je vois sourire.
Alors, les avis ont varié. Au départ, il avait ses preuves à faire face à ses propres troupes. Ensuite, les policiers l'ont beaucoup apprécié lorsqu'il a obtenu des hausses de budget, lorsqu'il les a défendus pendant un an, notamment lors de la polémique sur le LBD, dans les violences, les épisodes de violence face aux Gilets jaunes. Les policiers ont apprécié Christophe Castaner. Simplement, au bout d'un certain temps, on l'a vu en fin d'année dernière avec les mobilisations des policiers de tous grades pour dénoncer leurs conditions de travail, ils attendent des actes et ils commencent à critiquer eux aussi Christophe Castaner sur un manque d'autorité.
Embaucher des policiers supplémentaires ferait-il baisser le sentiment d'insécurité ? Alain Bauer, est-ce qu'il faut plus de moyens ? Mais c'est ce qu'on entend partout. Ça.
Non, il faut mieux de moyens. Il n'y a pas un problème de policiers en France, il y a un problème d'organisation de la police.
C'est-à-dire
parce qu'elle est organisée, c'est une police du 19e siècle avec une législation du 20e siècle et une criminalité du 21e. Donc, de toute façon, ils n'ont pas vu le changement de millénaire, pas vu le changement de centenaire non plus. C'est la même chose pour le maintien de l'ordre. Hein. Le maintien de l'ordre, ça fait 30 ans qu'on a expliqué ce qui allait se passer, ça fait 30 ans que tout le monde fait comme si ça n'allait pas arriver. La question criminelle, la question violente est expliquée depuis longtemps. La montée rapide des violences physiques, des agressions, des vols à main armée qui sont dans l'initiation criminelle un élément très important. Donc à chaque moment, il y a une réaction de la police, mais elle n'est jamais proactive. Elle a cette vraie difficulté. Donc oui, il faut mieux de policiers. En termes de plus, probablement pas. En décentralisation et en relocalisation, en passage sur des activités vraiment centralisées sur des activités. Et puis il faut que ce qu'on appelle la chaîne pénale ou le processus pénal, ils détestent chaîne pénale, les magistrats. Donc je vais dire processus pénal. Il y a une sorte de cohérence. Et donc alors il y a la cohérence sociale, il y a la cohérence judiciaire. Les deux doivent se retrouver dans une espèce de c'est quoi les politiques publiques de sécurité. La France est un des rares pays. Alors les équipements sont obsolètes. Les véhicules blindés, heureusement qu'ils ne sont toujours pas tombés en panne parce que ceux qu'on a vus pour les gilets jaunes, les voitures ont 300 000 km, etc. Donc là, l'équipement a été sacrifié aux augmentations de salaire, qui était un vrai sujet. Donc il y a un gros travail d'investissement en matière de matériel. Mais en termes de nombre de policiers, ce n'est pas la question centrale.
Ces mauvais chiffres ne profitent-ils pas au Rassemblement national ? Ivan Trippenbach, qu'est-ce qu'il monte dans les sondages ?
Oui, certainement. En tout cas, le débat général sur l'insécurité, mais on a aussi l'immigration qui nous a beaucoup occupés ces derniers mois, la lutte contre le communautarisme, etc. Tout ça, ce sont des thèmes du Rassemblement national et on le voit dans les mesures, dans les enquêtes de popularité de Marine Le Pen qui atteint des records à plus de 30%, dans les sondages de certaines villes où des figures emblématiques du Front National, du Rassemblement national, comme Louis Alliot, je le mentionnais tout à l'heure, sont en tête. Il y a quelques signaux objectivés dans les sondages qui montrent que le Rassemblement national profite de ce climat plus généralement. Oui.
Driss Saïd Youssef, un peu plus de sévérité serait-il souhaitable ? Il y a souvent cette impression qu'on laisse faire, que les incivilités, on les banalise.
C'est pas du ressort de la police, en tout cas. Il appartient à l'autorité judiciaire, au juge, de prononcer des sanctions, effectivement, peut-être un peu plus sévères. Mais on l'a dit tout à l'heure, qu'effectivement, les peines étaient beaucoup plus sévères, beaucoup plus lourdes que ces dernières années. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une vraie vision, une politique publique de sécurité ? Je rappelle que la police n'est qu'un outil, je passerai cette expression, mais ce n'est qu'un outil dans une politique publique de sécurité. Or, on s'aperçoit, y compris les choix qui sont faits d'un point de vue politique, d'un point de vue gouvernemental, ils peuvent être à un moment donné contestable. Pourquoi ? Je prends l'exemple de la suppression de l'Institut national des hautes études de sécurité et de justice et de son département, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. C'est quelque chose d'extrême. C'est une faute politique parce que c'est quelque chose qui permettrait à un moment donné de faire travailler des formations ensemble et de produire des analyses, donc étudier les statistiques, enquête de victimisation et de permettre à un moment donné aux politiques de prendre des orientations en disant là, on va plutôt travailler sur les violences faites aux femmes, on va plutôt travailler sur les homicides, on va plutôt travailler sur la délinquance rurale. Et au fond, on a un peu l'impression, on a un peu le sentiment que le ministère de l'Intérieur navigue un petit peu à vue, d'autant plus que la loi de budget 2020, on dit plus de policiers sur la voie publique, c'est vrai. Sauf que la difficulté, c'est que vous n'avez pas une grosse augmentation du budget de la police. Et par conséquent, vous avez une forte augmentation de la masse salariale, c'est 90% aujourd'hui du budget de la police, c'est la masse salariale. Et par conséquent, vous avez ce qu'on appelle les titres 2, titres 5, le fonctionnement, l'investissement, qui sont en baisse. C'est quoi
D'où le matériel vieillissant.
D'où le matériel vieillissant, mais pire encore, la question de la formation des policiers. Ouais. On voit bien que les policiers, à un moment donné, ont des difficultés en matière de formation et surtout de l'encadrement. C'est-à-dire qu'on a aussi sacrifié le corps d'encadrement et donc, du coup, on en arrive à dire bah, finalement, mais les policiers, on a le sentiment que ça... Bah oui, mais quand il n'y a pas d'encadrement derrière, notamment quand on leur demande d'utiliser le lanceur de balles de défense, eh bah, c'est très compliqué.
Alors justement, Cécile Cornédé, je suis surtout inquiète de la haine de plus en plus forte envers les fonctionnaires de police, les policiers qui étaient des héros au lendemain des attentats de novembre.
Je pense que c'est la nouveauté dans le débat sécurité qui est la plus problématique, parce qu'il faut effectivement arriver à peut-être de temps en temps rappeler la police à des gestes mesurés et en même temps qu'elle se sente confortée pour pouvoir bien agir face à l'explosion des difficultés. Donc je pense que politiquement, trouver le chemin de crête pour réconcilier les Français et leur police et en même temps garder la police avec soi, c'est plus difficile.
Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Lundi, vous retrouverez C'est dans l'air. Et demain, Karim Rissouli, C'est politique, à suivre C'est l'hebdo. Bonne soirée sur France 5.